Le Conseil constitutionnel valide le report des élections provinciales. Ce troisième devrait être le dernier, prévient le Conseil des sages. L'actualité en métropole, il dit avoir suivi les ordres d'Allah. Le suspect de l'attaque d'Oléron qui a fait 5 blessés s'est converti à l'islam récemment. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. Le discernement de cet homme de 35 ans était altéré mais pas aboli au moment des faits. À Nouméa, un trafic de cannabis démantelé à la vallée du Tir. Un homme de 28 ans et son fournisseur ont été condamnés après un coup de filet de la police. Actualité économique, la tech est aussi une affaire de femmes. C'est le leitmotiv de l'appel à projet Women in Tech qui a récompensé 2 dossiers hier au CREPAC. Le football et la belle opération des cagoules. La sélection calédonienne des moins de 17 ans a pris un point en Coupe du Monde en réalisant un match nul 0-0 face au Japon. La météo en Nouvelle-Calédonie, dans un ciel chargé, des orages éclatent aux abords du relief et sur l'Ifou, voire marais. Ces orages débordent ensuite vers la côte est et plus localement sur le littoral de la façade ouest, où le soleil reste toutefois plus présent. Les températures maximales sont stables, plus souvent comprises entre 28 et 30 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne.
Oui, et le Conseil constitutionnel qui a donc validé la nuit dernière le report des élections provinciales. Après l'adoption de la proposition de loi organique issue de la commission mixte paritaire par le Parlement, le Conseil constitutionnel s'est donc prononcé cette nuit. Il indique toutefois que ce troisième report du scrutin au plus tard le 28 juin 2026 devrait être le dernier, Lionel Sabot.
Dans son communiqué, le Conseil constitutionnel relève que l'accord de Nouméa précise que la durée du mandat des membres du Congrès et des assemblées de province est de 5 ans. Il indique qu'à titre exceptionnel, le législateur organique peut modifier cette durée dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle. En conséquence, les mandats en cours des membres de ces assemblées ont déjà été prorogés pour une durée de 18 mois au plus. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce report a poursuivi un but d'intérêt général car il a pour objectif de tenir compte de la poursuite des discussions entre les partenaires politiques de l'accord de Nouméa pour parvenir à la conclusion d'un accord qui soit consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Dans l'actualité politique, le PALIKA a réuni à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours son 50e congrès à Bouraille sur le site de Téné. Un congrès présenté comme un tournant dans l'actualité politique par les dirigeants du PALIKA qui ont fixé 3 axes majeurs à leurs travaux. Il s'agit de la gestion de la crise sociale et économique, de la validation de la trajectoire institutionnelle de l'accord de Bougival et de la stratégie à mettre en œuvre pour porter ce projet politique. Les délégués du parti évoqueront également la visite de la ministre des Outre-mer et le positionnement du PALIKA vis-à-vis du FLNKS. Les différentes délégations vont rejoindre aujourd'hui le site de Téné et c'est demain à 9h que sera prononcé le discours d'ouverture de ce 50e congrès du PALIKA. Un rendez-vous sur notre antenne. À présent, c'est Nicolas Metzdorf qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Le député de la première circonscription sera interrogé sur le processus de mise en œuvre de l'accord de Bougival, sur le report des élections provinciales, sur la situation économique ou encore sur le prochain déplacement de la ministre des Outre-mer. Le député Nicolas Metzdorf, invité de Transparence, est à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Dans quel domaine attendez-vous surtout des réponses de la part de la ministre des Outre-mer qui arrive donc lundi en Nouvelle-Calédonie? Si c'est d'abord dans le domaine politique et institutionnel, vous tapez 1. Si c'est d'abord dans le domaine économique et social, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, et vous êtes dubitatif. 50% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la reprise des services de cantine à partir du 12 novembre signifie la fin du conflit entre la DEC et les collectivités. Ils sont donc aussi 50% à penser que ce n'est pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et justement, dernier jour sans cantine aujourd'hui pour les élèves des établissements catholiques. Le week-end à venir sera en effet suivi par le pont du 11 novembre et il n'y aura pas d'école. Et ensuite, tout devrait revenir à la normale après plusieurs jours de bras de fer entre la direction de l'enseignement catholique et les institutions. En attendant, hier encore, de nombreux élèves et leurs parents se sont retrouvés place des Cocotiers à Nouméa pour la pause du midi. Satisfaits que les cantines rouvrent mercredi prochain, même si pour l'instant, chacun s'organise comme il peut.
Ça fait du bien pour les parents, surtout pour l'organisation, parce que c'était compliqué en fait de quitter le travail. Il y a des parents qui ne peuvent pas. Et là, si la cantine, elle revient, ben, ça sera bien pour nous, les parents. Heureusement, moi, je travaille sur Goro. Du coup, ben, quand ma femme, elle travaille, du coup, ben, c'est moi qui viens donner à manger et la récupérer. Et puis, quand je suis pas là, ben, elle est obligée de sortir du travail et puis venir. Compliqué, en plus, que la circulation, les travaux, c'est pas fait pour qu'on puisse venir le midi sur Nouméa.
Je suis très, très, très contente parce que c'est quand même une contrainte logistique, on va dire. Et puis finalement, même eux, ils aiment aller à la cantine.
C'est une bonne chose parce que c'est compliqué pour les parents pour se déplacer ou pour rester à l'extérieur pour donner à manger aux enfants.
C'est une bonne nouvelle pour nous. C'était un peu dur pour venir à 11h30, les récupérer, les faire manger, puis les ramener. C'est quand même éreintant pour nous.
C'est très bien. On remercie les personnes qui ont fait que ça s'est débloqué. Parce que c'était quand même un souci d'organisation cette semaine. Donc on est très heureux que ça reprenne.
Et c'est donc aujourd'hui le dernier jour sans cantine dans les établissements de la DEC, puisqu'elles seront de nouveau ouvertes après le pont du 11 novembre. Un rendez-vous enfin sur notre antenne avant de refermer cette page. Depuis le 1er novembre, la Nouvelle-Calédonie est officiellement rentrée dans la période cyclonique. Une période pour laquelle les forces armées en Nouvelle-Calédonie se sont préparées ces dernières semaines. Les fangs qui seront au service de la population et nous en parlerons ce matin à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. C'est en effet le général Gabriel Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui sera notre invité du matin. Rendez-vous donc tout à l'heure à 7h30. En attendant, il est 6h passé de 37 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole et dans le monde et notamment les suites de l'enquête après l'attaque sur l'île d'Oléron.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Sima Quincaillerie, c'est la quinzaine du jardin. Le taille est 18 volts LXT Makita longueur 50 cm et vendu sans batterie 49 900 francs. Du 1er au 15 novembre, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur Facebook et sur simac.nc. À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kateviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Solenco, la référence pour la pose de vos sols. Parquet, sol souple, ragréage, particulier ou pro, choisissez la qualité. Solenco, 83 92 99. Solenco, la qualité sous vos pas.
Virus, bactéries, stop. Depuis 20 ans, le spray assainissant pur essentiel purifie l'air intérieur tout naturellement. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force de sa formule brevetée pour éliminer virus, bactéries et limiter les sources d'épidémie. 21 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. Numéro 1 en pharmacie. Pur essentiel, 20 ans d'efficacité à l'état pur. En ce moment, 20 séjours exceptionnels à gagner à l'achat d'un spray assainissant 20 ans. Date et règlement sur puressentiel.com.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en métropole et on en sait désormais plus sur les motivations du suspect dans l'attaque à la voiture survenue sur l'île d'Oléron. Je rappelle qu'il a fait 5 blessés, dont 2 graves. 24 heures après les faits, le parquet national antiterroriste a finalement décidé de ne pas se saisir de l'affaire. Selon la justice, il n'y a pas de mobile terroriste. Une alternation du discernement a été relevée par les psychiatres. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Oui, un discernement altéré mais pas complètement aboli selon le procureur. Un homme présenté comme instable, lui qui a tenu des propos confus au cours de sa garde à vue, notamment sur son rapport à l'islam. Une conversion récente et rapide. Écoutez Arnaud Larrez, procureur de La Rochelle.
Il motivait son acte en indiquant avoir suivi les ordres d'Allah, qui lui intimait de faire un sacrifice. Il déclarait s'être tourné vers le catholicisme dans un premier temps, puis s'être converti récemment à l'islam, seul et à l'aide des réseaux sociaux. Il déclarait avoir souhaité mourir en s'immolant, mais n'était pas parvenu à faire exploser son véhicule.
Un périple durant lequel le suspect n'a bénéficié d'aucune aide, aucune complicité, pas de lien non plus avec une quelconque entreprise terroriste. La préméditation est toutefois retenue par le parquet de La Rochelle, le procureur qui va demander demain l'ouverture d'une information judiciaire en vue d'une mise en examen pour le chef de tentative d'assassinat. Son placement en détention provisoire sera également requis.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et dans le même temps, et sans revenir en particulier sur ce drame d'Oléron, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a pris la parole tout à l'heure. On l'écoute.
Il est évident que nous avons sur le territoire national, et sans parler d'Oléron en particulier, des gens extrêmement dangereux, que bien sûr le problème psychiatrique peut être un révélateur, mais qu'il ne faut pas se cacher derrière le problème psychiatrique pour expliquer que l'islamisme radical, le terrorisme islamiste, est particulièrement dangereux dans notre pays et qu'il tue et qu'il peut encore tuer, notamment dans ces jours de novembre dont nous allons commémorer les horribles attentats le 13 novembre prochain.
Et concernant l'état de santé des deux blessés graves, une jeune femme de 22 ans, attachée parlementaire du député Rassemblement National de Charente-Maritime, Pascal Marskowski, et un cycliste âgé de 69 ans. Ils sont hors de danger. Leur pronostic vital n'est plus engagé, mais ils restent hospitalisés avec des blessures extrêmement graves, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. L'actualité judiciaire, c'est aussi la relaxe pour Raphaël Antoven. Le philosophe était poursuivi par la France insoumise, qu'il avait qualifié de mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite. Ses propos n'ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d'expression, selon les magistrats. En revanche, le producteur Damir dénonce l'appel au boycott du concert de Brest, boycott de la France insoumise et plus particulièrement de Cécile Baudouin, tête de liste au municipal 2026. Elle écrit notamment qu'Amir a participé à, je cite, « la colonisation illégale en Palestine au sein de l'armée israélienne ». Dans le reste de l'actualité ce matin, une image très partagée. La photo de ces trois fillettes entièrement voilées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en train d'assister au débat parlementaire des députés. Plusieurs macronistes et des membres du Rassemblement national se sont emparés de l'affaire, notamment la présidente Yael Braun-Pivet, Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, Yael Braun-Pivet tape du poing sur la table. Il est inacceptable que des enfants puissent porter des signes religieux dans les tribunes de l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée nationale a fait passer le message aux huissiers. Cela ne se reproduira plus, affirme-t-elle. Au Rassemblement national, Julien Odoul dénonce même une infâme provocation.
C'est la première fois qu'on assiste à ce spectacle déplorable pour la République française de voir des fillettes porter le voile islamique dans le temple de la République française.
Voilà. De l'autre côté, le député de la France insoumise Thomas Porte accuse Yael Braun-Pivet d'islamophobie.
C'est une polémique raciste et islamophobe. Et je le dis, c'est extrêmement grave. Yael Braun-Pivet, hier, a repris la même rhétorique que Julien Odoul, la même rhétorique que l'extrême droite, en s'acharnant sur des jeunes filles qui n'avaient rien demandé à personne.
Les troupes de Jean-Luc Mélenchon jouent sur les mots. Le règlement intérieur stipule que les invités doivent être assis, silencieux et découverts, sans mentionner explicitement le voile. Il faut clarifier cette règle, tranche Marc Fesneau, chef des députés Modem et à l'origine de l'invitation de ces jeunes filles. Il reconnaît toutefois avoir été choqué par la présence de leur voile.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. La suite de l'affaire du Louvre maintenant, et cette fois-ci, c'est la Cour des comptes qui s'en mêle. Les sages de la rue Cambon ont publié un rapport accablant qui a été rédigé avant le fameux casse concernant les bijoux. Ce rapport est formel. Le plus grand musée du monde privilégie son attractivité à sa sécurité, Maïalène Trémollet.
Oui, la Cour des comptes étrit la gestion du Louvre, chiffres à l'appui. Ainsi, sur le grand schéma de rénovation du musée lancé par Laurence Descartes qui s'élève à 480 millions d'euros, les sages relèvent que seuls 80 sont consacrés à la sécurité. Et les autres exemples ne manquent pas. Le rapport souligne ainsi, entre 2018 et 2024, la mobilisation de 105 millions pour acheter des œuvres, contre un peu plus de 26 millions seulement pour la mise aux normes. Quant au projet Louvre, Nouvelle Renaissance, grand projet de modernisation du palais voulu par Emmanuel Macron. Il est épinglé, lui aussi, considéré comme risqué en termes de dérapage et de coûts. En clair, après une longue liste allant d'une politique d'acquisition d'œuvres trop ambitieuse à une négligence des questions sécuritaires, les sages appellent la direction du musée qui reçoit 9 millions de visiteurs par an à revoir ses priorités. Si Laurence Descartes dit dans un communiqué accepter la plupart des recommandations, elle regrette néanmoins un jugement insuffisamment équilibré, tandis que la ministre de la Culture Rachida Dati a déjà demandé un audit global sur les risques d'intrusion et de vol au sein du musée prévu pour la fin de l'année.
Maïalène Trémollet pour Europe 1. Et enfin, en bref, 200 000 colis ouverts par les douanes françaises, dont 100% des paquets Shein arrivés ces dernières 24 heures à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et ils contiennent, pour certains, des produits non conformes et illicites. Des produits cosmétiques non autorisés, des jouets dangereux pour les enfants ou encore des contrefaçons. C'est ce qu'a constaté la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui était sur place avec son collègue du commerce, Serge Papin. Il est 6h passé de 45 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et revenir notamment sur cette affaire judiciaire. Deux hommes ont été condamnés pour un trafic de stupéfiants à la Vallée du Tir.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Rendez-vous les 7 et 8 novembre pour une nouvelle édition du Salon Prestige à l'Amirauté. Deux jours d'exposition, d'élégance et de partage réunissant une trentaine d'artisans et de commerçants passionnés au cœur d'un cadre d'exception. Venez découvrir des créations uniques dans les univers de la mode, des bijoux, du design, de l'épicerie fine, de l'automobile et bien plus encore. Un événement Pacific Fair en partenariat avec l'Amirauté, le groupe Jandot, Elle Calédonie et Radio Rythme Bleu.
Du 1er novembre au 15 décembre 2025, Mobile t'embarque pour une course incroyable. Tente de gagner un voyage pour deux pour assister au Grand Prix de Formule 1 d'Australie à Melbourne en mars 2026. Et ce n'est pas tout. 20 polos F1 Racing Red Bull sont aussi à gagner. Rendez-vous dans ta station mobile pour participer et tenter ta chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible en station. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie Circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et l'actualité judiciaire avec une affaire de trafic de drogue résolue, c'est ce qu'indique le procureur de la République dans un communiqué. C'est le résultat d'un travail commun entre plusieurs services de police menés Vallée du Tir, Lionel Sabot.
Oui, tout est parti d'un homme qui se livrait à de la revente d'herbes de cannabis. Les opérations de surveillance menées pendant plusieurs jours ont permis d'établir qu'une quinzaine de clients venaient se fournir régulièrement. Et le 29 octobre dernier, un coup de filet a permis l'arrestation de 6 personnes. Le dealer, 2 autres revendeurs et 3 clients. Lors d'une perquisition au domicile du dealer, les policiers ont retrouvé 900 grammes d'herbe, 285 000 francs en liquide provenant du trafic, mais aussi des armes provenant d'un vol. Le dealer se fournissait auprès de 2 fournisseurs, dont l'un à Saint-Louis, qui a également été interpellé. Le dealer et le fournisseur ont comparu devant le tribunal dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. L'auteur du trafic Vallée du Tir a été condamné à 18 mois de prison, dont 8 avec sursis, à une amende de 200 000 francs et une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Le fournisseur a écopé, lui, de 12 mois de prison et de 300 000 francs d'amende. L'enquête se poursuit pour identifier le second fournisseur.
L'actualité économique et le Nouméa Women's Forum qui touche à sa fin. Une dernière journée d'échange est organisée aujourd'hui au centre administratif de la province sud. Au programme, une conférence inspiration, une lecture des textes des ateliers d'écriture, mais aussi et surtout la mise à jour du livre blanc. Hier, c'est au CREPAC que les intervenants étaient réunis. L'occasion en fin de journée de récompenser les lauréates de l'appel à projet Women in Tech. Lancé par le gouvernement, le projet vise à soutenir l'entrepreneuriat des femmes dans le secteur de la tech. C'est Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du numérique, qui a remis les prix aux lauréates.
On avait constaté que lors du dernier déplacement à Vivatech, il y avait beaucoup d'hommes et on a des très gros projets féminins, notamment dans le secteur de la tech. On avait eu des très très beaux projets à l'époque et là on a voulu recommencer. Oui, c'est un vrai succès, surtout en peu de temps, parce que autant la Nouvelle-Calédonie dispose de peu de moyens, mais par contre les moyens qu'on a, on souhaite les mettre massivement sur la relance, sur la diversification de l'économie calédonienne, sur la valorisation de l'entrepreneuriat. Et là on a deux très beaux projets, un qui permet aux femmes de choisir vraiment leurs produits de beauté et un projet qui valorise le sport sur une plateforme. Donc on est très fiers d'avoir autant de beaux projets en Calédonie.
Et sur les 19 dossiers présentés au jury, Solène de Sainte-Marie et Claire Nebeau se sont démarqués. Claire Nebeau qui a imaginé une application mobile d'assistance beauté par intelligence artificielle nommée Glossy. Elle recevra donc 500 000 francs du gouvernement pour soutenir son projet.
Alors je suis très à l'aise à l'informatique, mais c'est comme tout, il faut se former. Une application mobile, j'ai jamais fait ça. Enfin, je suis en train de le faire, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et d'ailleurs, la subvention que j'ai obtenue va m'aider justement à prendre quelqu'un pour vérifier ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait des choses qui sont trop compliquées et qui pourraient être faites exactement avec le même résultat, mais de manière beaucoup plus simple. Enfin voilà, il y a sûrement plein de choses qui sont à améliorer sur l'appli telle que moi je l'ai faite. Et du coup, la subvention va m'aider à ça.
Et l'aventure pour ces femmes pourra continuer si elles choisissent de postuler pour le salon Vivatech 2026. Il se tiendra du 17 au 20 juin à Paris. L'appel à manifestation d'intérêt est désormais lancé. Le 13 novembre prochain, le cluster New Caledonian Trade and Invest fêtera ses 10 ans d'existence, 10 ans d'accompagnement aux entreprises qui souhaitent se développer au-delà des frontières du territoire. Aujourd'hui, NCTI souhaite mettre en avant des témoignages de réussite pour inciter les entreprises calédoniennes à se lancer dans l'export, car l'ouverture au monde reste une des solutions pour faire face à la crise que traverse le territoire, selon le coprésident du cluster, Denis Etourneau.
Malheureusement, suite aux événements de la Calédonie, si on n'avait pas développé des sociétés qui avaient créé une filiale d'export, la situation aurait été beaucoup plus grave en Calédonie. On a pu maintenir 10% à 15% de nos emplois parce qu'on envoyait les gens à l'extérieur pour travailler. Et ce qu'on veut prouver à l'ensemble de la population et à nos décideurs, c'est qu'une meilleure intégration économique dans la zone est essentielle pour l'avenir.
Et un événement sera donc organisé le 13 novembre pour fêter les 10 ans du cluster. L'occasion également de remettre aux entrepreneurs les trophées de l'export, une récompense qui met à l'honneur les hommes et les femmes qui font rayonner la Nouvelle-Calédonie au-delà de ses frontières.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h50.
Le salon Prestige fait son grand retour. Il s'ouvre aujourd'hui et pour deux jours à l'Amirauté à Nouméa. Un retour puisqu'en raison des émeutes de mai 2024, il avait été annulé. Le principe reste le même, il s'agit de proposer des produits et des services haut de gamme. Mais il a fallu s'adapter, comme l'explique Bruno Aurelio, le gérant de Pacific Fair qui organise ce salon.
On a dû réinventer un petit peu le salon, même si le concept reste le même. On ne va pas présenter des boutiques connues du grand public. On a décidé plutôt de privilégier des artisans qui travaillent des matériaux nobles, des matériaux précieux, pierres précieuses, du bois, de la photographie, des artistes, pour avoir un salon prestige plutôt dans l'air du temps, du moment. On aura des dégustations également. On a de beaux produits en Calédonie, que ce soit du poisson fumé, des huîtres, des crevettes. On aura des filochés de cerf. Voilà. On a préféré mettre en avant vraiment des trésors du territoire avec des artistes et des artisans de talent que l'on a sur le territoire.
Le Salon Prestige est ouvert aujourd'hui et samedi à l'Amirauté de 10h à 19h. Et puis, différentes manifestations sont proposées à partir d'aujourd'hui dans les îles, notamment à Marais, où la tribu de Raux célébrera pendant 3 jours les 20 ans de la fête du Wajoyou, le Vivano. Et à Lifou, notamment, se déroule l'édition 2025 du Santal Cup sur le site de Aïma. La pirogue traditionnelle est à l'honneur jusqu'au 14 novembre prochain. Puis à la tribu de Luengoni, elle vivra pendant 3 jours au rythme de la fête de la plage. Il est 6h passé de 52 minutes. Merci d'être avec nous. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Et notamment cette très belle opération pour les Cagous à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ils ont fait match nul 0-0 face au Japon.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Il est arrivé mon Duster, il est
oui,
arrivé.
Oui papa, je sais que ton nouveau Duster est arrivé.
Découvrez le nouveau Dacia Duster. Un style encore plus baroudeur, un intérieur high-tech, des aides à la conduite de dernière génération et désormais disponible en hybride essence et toujours en diesel. Craquez vous aussi pour le nouveau Dacia Duster et venez profiter d'offres exclusives pendant les portes ouvertes les 14 et 15 novembre au showroom Dacia OPK4. Voir conditions concessions construites dans notre pays. Économisons l'énergie.
La clinique vétérinaire de l'Hippocampe renaît après l'incendie. Retrouvez-nous au 4e kilomètre, 6 rue Chalier, avec du matériel de pointe dernière génération et une équipe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos compagnons à quatre pattes. Plus d'infos sur Facebook, clinique vétérinaire de l'Hippocampe.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec du football et Didier Deschamps qui a communiqué la liste des joueurs appelés en équipe de France pour affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Lionel Sabot.
Oui, les attaquants Ryan Cherki et Randal Kolo Muani ainsi que le milieu de terrain N'Golo Kanté ont été rappelés en équipe de France par Didier Deschamps. Cherki et Kolo Muani retrouvent les Bleus alors que les deux Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont indisponibles plusieurs semaines. Ils sont forfaits. Forfait du Ballon d'Or Ousmane Dembélé pour cause de blessure qui a fait réagir le sélectionneur de l'équipe de France.
Sur la saison dernière, il avait été épargné, puis là, il enchaîne plusieurs blessures à des endroits différents. Donc, de ne pas l'avoir avec nous, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Même s'il y a d'autres blessés aussi. Après, non, comptez pas sur moi pour la pièce ou ce que vous voulez rajouter. Je suis pas dans la polémique. Il y a des décisions qui sont prises du côté de son club. Comme nous, on en a eu à en prendre aussi. On a un point commun que son absence, ça fait pas les intérêts du PSG et ni les nôtres. Ça, c'est factuel.
Ousmane Dembélé, Désiré Doué, remplacé au sein de l'attaque de l'équipe de France par Ryan Cherki, auteur d'un but hier en Ligue des Champions avec Manchester City contre le Borussia Dortmund, et par Randal Kolo Muani, un habitué de l'équipe de France, mais qui est un peu en manque de temps de jeu avec son nouveau club de Tottenham. Didier Deschamps a également choisi de rappeler le vétéran N'Golo Kanté ainsi que Warren Zaïre-Emery, qui avait payé ces derniers mois ses ternes prestations avec le Paris Saint-Germain. La France, je vous le rappelle, a besoin d'un succès contre l'Ukraine le 13 novembre au Parc des Prince pour valider sa qualification pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En cas d'échec, les Bleus auront ensuite une autre opportunité avec un déplacement en Azerbaïdjan le 16 novembre.
Le football, c'est aussi ce matin la suite des Coupes européennes. Lille, Lyon, Nice et Strasbourg sont ce matin sur les pelouses d'Europa League et de Ligue Conférence.
Bah, c'est pas brillant hein, ce matin pour les clubs français, notamment pour Lille et Nice qui viennent de s'incliner dans leurs matchs respectifs. Les Lillois battus 1-0 sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Niçois, eux, sont tombés à domicile. Ils se sont inclinés 3-1 face à Fribourg. Je vous donne d'autres résultats. Avec Bâle, qu'il s'est imposé 3-1 sur le FCSB. Le Dynamo de Zagreb a été battu sur sa pelouse par le Celta Vigo 3-0. Le Panathinaikos s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Malmö. Midtjylland s'est imposé 3-1 face au Celtic de Glasgow. Victoire de Salzbourg face au Headed Angels 2-0. Le Sturm Graz et Nottingham Forest ont fait match nul 0-0. Match nul également, 1-1 entre Utrecht et le FC Porto. Dans quelques minutes, 4 exactement, Lyon et Strasbourg seront sur les pelouses européennes. Lyon en Europa League qui se déplace sur la pelouse du Betis Séville. Et en Ligue Conférence, les Strasbourgeois seront sur la pelouse des Suédois de Häcken.
Encore un mot de football avec la belle performance, je le disais, de l'équipe de Nouvelle-Calédonie des moins de 17 ans qui dispute en ce moment au Qatar la Coupe du Monde. Après une défaite 6-1 face au Portugal, les Calédoniens ont décroché un très beau match nul 0-0 face au Japon. La prochaine rencontre pour les Calédoniens, ce sera dans la nuit de lundi à mardi face au Maroc. Du tennis avec la suite du Masters d'Am à Riyad en Arabie Saoudite, Lionel.
Et la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui s'est qualifiée pour les demi-finales en battant la tenante du titre, l'américaine Coco Gauff, éliminée dès les phases de poule, 5 mois après sa cuisante défaite en finale de Roland-Garros contre Gauff. Sabalenka a donc pris sa revanche, elle s'est imposée en 2-7, 7-6 et 6-2 et termine la phase de poule avec un bilan parfait, 3 victoires en 3 matchs. Elle affrontera en demi-finale la finaliste de Wimbledon et de l'US Open, une américaine Amanda Asinimova. Le second match du dernier carré mettra aux prises la kazakhstanaise Elina Rabekina et l'américaine Jessica Peluga. Cette dernière s'est imposée 6-2, 6-3 contre l'italienne Yasmine Paolini et termine la phase de poule avec un bilan de 2 victoires pour une défaite.
Et puis de la voile avec la Transat Café L'Or entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique. Hier dans la catégorie ultime, les navigateurs français Tom Laperche et Franck Camas se sont imposés sur SVR Lazartigue. Ils ont franchi la ligne d'arrivée après 10 jours 13h et 3 minutes de course. Les deux skippers qui viennent de passer leur première nuit au calme après 10 jours intenses dans l'Atlantique. Axel May pour Europe 1.
Ils ont passé une nuit réparatrice, au calme, dans une villa louée de l'autre côté de la baie de Fort-de-France, aux Trois-Îlets. Et Tom Laperche a pris le temps de donner de ses nouvelles à Europe 1.
Ça y est, en direct de la Martinique. Première nuit à terre, première assez courte, hein, parce qu'on est arrivé en milieu de nuit quasiment. Le temps de retrouver tout le monde, d'amarrer le bateau, le grand trimaran SVR Lazartigue dans le port de Fort-de-France. C'est toujours des super moments, ces arrivées. Et voilà, là c'est plutôt journée un peu repos et agréable de se lever en prenant un peu plus le temps ce matin et de pas avoir la gestion, la concentration permanente d'un bateau qui va à pleine vitesse sur l'océan et auquel il faut tout le temps avoir de l'attention. Et le bruit s'est arrêté, c'est le calme et on a quelques heures de repos ici en Martinique.
Les deux skippers de SVR Lazartigue assisteront ce soir à l'arrivée du troisième bateau dans la catégorie des ultimes, le Maxi Trimaran actuel, barré par Anthony Marchand et Julien Villon. Tom Laperche reprendra la mer en début de semaine prochaine pour ramener son bateau au port d'attache à Concarneau, tandis que Franck Camas prolongera de quelques jours supplémentaires sa présence aux Antilles.
Axel May du service des sports d'Europe 1. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune avec de fortes pluies et de orages. Ce sera sur la côte est, au Loyauté et une grande moitié sud de la côte ouest pour des orages qui se développeront sur le relief et au Loyauté dès la mi-journée avant de déborder vers les communes de la côte est et localement sur le sud-ouest dans l'après-midi. Ce matin, quelques averses évolueront dans un ciel passagèrement nuageux au Loyauté et sur le sud de la côte ouest en début de matinée. Sur les autres régions, le soleil d'abord bien présent, puis des nuages commenceront à gonfler sur la chaîne et donneront déjà des averses en fin de matinée. Le vent orienté à l'est pour ce matin. Dominant, il reste faible autour des 5 nœuds, autour de la Grande Terre. C'est le régime de brise qui domine. Cet après-midi, dans un ciel chargé, des orages éclateront aux abords du relief et sur l'Ifou, voire marée. Ces orages déborderont ensuite vers la côte est et plus localement sur le littoral de la façade ouest où le soleil restera toutefois plus présent. Sur l'ouest, le vent, lui, sera compris entre 5 et 10 nœuds, orienté sud-est. Il sera de secteur est ailleurs, autour des 5 nœuds. Les températures, elles, sont comprises entre 28 et 30 degrés. À signaler que pour ce vendredi matin, à 9h, marée haute, une très haute marée haute pour aujourd'hui, ce sera 1,69 m.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité de ce vendredi matin. Puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Jean-François Baudin. Et ensuite, vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.